France Inter.
Aujourd'hui, qui veut la peau de l'écologie, racontée par...
Laure Tellière, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès et membre de la Técopole, atelier d'écologie politique.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tout commence dans les années 50, dans les bureaux feutrés des géants américains du tabac, lorsque les premières études scientifiques établissent un lien entre la cigarette et le cancer du poumon. Pour l'industrie, le danger n'est pas seulement sanitaire, il est économique, et c'est à ce moment précis qu'elle invente une arme redoutable, le doute organisé. On y trouve déjà toutes les techniques qui seront plus tard réutilisées par d'autres industries, semer la confusion, jouer sur l'incertitude inhérente à la recherche, financer des scientifiques soi-disant indépendants, et exiger que les médias fasse entendre les deux côtés. En 1954, les cigarettiers publient dans la presse américaine une déclaration intitulée « Frank's Statement to Cigarette Smokers », un manifeste d'apparence honnête, rassurant, mais conçu par une agence de relations publiques pour retarder la régulation. Derrière ce texte se cache un principe simple, cynique et terriblement efficace, le doute est notre produit. Ce savoir-faire du mensonge calibré va bientôt changer d'échelle. Les mêmes communicants, les mêmes consultants, parfois les mêmes scientifiques quittent les bureaux du tabac pour ceux des industries fossiles. Leur mission, entretenir la confusion sur le réchauffement climatique, présenter la science du climat comme une théorie contestée et faire croire que la vérité est encore à débattre. C'est ce passage de relais que racontent Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur livre « Les marchands de doute » publié en 2010. Comment une poignée de scientifiques liés au tabac ont contribué à semer le doute sur les plus acides, le trou dans la couche d'ozone, puis donc le changement climatique. On retrouve dans cette nouvelle bataille les mêmes armes, les think tanks comme le Heartland Institute, qui fut d'abord un défenseur acharné de la liberté de fumer, avant de devenir l'un des centres du climato-scepticisme américain. Les pseudo-controverses scientifiques et même des appels publics financés en partie par les industries du tabac et de l'amiante pour dénoncer le dogmatisme écologique. Le backlash écologique actuel n'est donc pas né d'hier. Il prolonge l'œuvre des marchands de doute, ceux qui hier défendaient le tabac, défendent aujourd'hui le pétrole, l'agrochimie ou le béton. Leur objectif reste inchangé, transformer la peur du changement en arme politique. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
La fréquence de ces épisodes, moi je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Enfin,
pardonnez-moi. Mais préparé de quoi ? On n'est pas préparé à, on n'est pas préparé à la nature.
Mais non, mais à la nature,
c'est un rapport au monde.
Non, mais prévoit quand même d'ici 2050 une vingtaine.
Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoie, mais moi prévoir, ça me plaît pas en fait.
En 25 ans, il y a eu deux fois plus de canicules qu'en 50 ans.
Mais ça veut rien dire. Je ne nie rien du tout. Non, je mets en perspective. D'abord, ils peuvent aller ce jour-là, pourquoi pas dans la cour faire une autre activité.
Mais la cour, il fait 50 degrés.
Voilà un extrait de CNews en juillet 2025, cette année donc. Pascal Pro avec la journaliste Eugénie Bastier. Bonjour Laure Tellière.
Bonjour.
Vous signez avec Steve Agimont et Jean-Michel Huppé un ouvrage collectif qui décrit un phénomène global, la montée d'un backlash écologique, une sorte de retour de flamme contre les avancées environnementales. Ça sort aux éditions du Seuil. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'une crise passagère, mais d'une contre-offensive organisée, justement. Comment est-ce que vous caractérisez ce moment ? Est-ce que c'est une réaction de panique ou au contraire le symptôme d'un projet politique bien structuré ?
Alors, c'est un peu les deux à la fois. Ce qu'on montre et ce que vous montrez aussi avec l'édito que vous avez fait sur ce retour à l'exemple des cigarettiers dans les années 50, c'est que le backlash est à la fois quelque chose de très actuel, manifesté par tout un tas de signes qui ne doivent pas être pris isolément, mais qui doivent être interprétés un peu de manière systémique, en fait, qui marchent ensemble. Et en même temps, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Donc effectivement, il y a déjà eu des manifestations et c'est le résultat de plusieurs trajectoires dans lesquelles où nous sommes. En tout cas, nous, le livre est né du moment qu'on vit, de cette impression que si, disons, dans les années 2010, et particulièrement après l'accord de Paris de 2015, on avait pu avoir l'impression que l'écologie devenait une grande cause, avec le mot d'ordre de transition, avec des objectifs chiffrés, etc., un échéancier, embarquant bon, le monde politique et les sociétés, même si les mesures et la manière de s'y consacrer étaient très insuffisantes, qui nous avait d'ailleurs conduit à faire le bouquin précédent Greenwashing, pour dire qu'il y avait quand même dedans aussi beaucoup d'enfumage, de promesses en l'air, etc. Mais malgré tout, on pouvait avoir cette impression-là. La jeunesse était mobilisée, les marches du climat, etc. Et puis en fait, dans les années post-Covid, ce qui est frappant, je pense que vos auditeurs qui sont un peu voilà, aguerris sur ces questions, mais de manière plus large, on le sent, il y a beaucoup de choses qui montrent à l'inverse ce retour de bâton. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de reprendre ce terme de backlash qui manifeste ça.
Et donc de green backlash.
Et de green backlash pour adapter à la question écologique.
Voilà. Voilà, alors vous montrez bien que cette contre-offensive, elle repose sur des stratégies de disqualification, parce qu'on accuse les écologistes d'être moralisateurs, punitifs, voire autoritaires. Donc ce discours de l'écologie punitive, il a pris une ampleur considérable. Comment il est né d'ailleurs exactement, et pourquoi est-ce qu'il rencontre un tel écho aujourd'hui dans l'opinion publique ?
Alors, cette question de l'écologie politique, en fait, elle entre dans un des chapitres de notre livre, enfin une des parties qui est consacrée aux stratégies, à la fabrique du dénigrement autour d'un certain nombre de clichés qui circulent très facilement dans l'opinion publique, mais qui en même temps, quand on y regarde de plus près, sont construits. Ont chacun une histoire, apparaissent à certains moments, sont portés par certaines forces politiques plus particulièrement, et sont instrumentalisés pour des enjeux politiques qui vont de déchéance électorale à du dénigrement, pour faire passer certains intérêts, etc. Donc la question de l'écologie politique, c'est un de ceux qui fonctionne, hélas, le mieux, sur cette idée, effectivement, que les écolos seraient soit moralisateurs, soit viseraient à faire une sorte de contrainte par rapport au mode de vie, s'attaqueraient plutôt aux classes populaires, parce que ce sont forcément des bobos, voilà, et puis à ultimement serait en fait dans des logiques répressives, de contraintes, toujours passées par la punition et peut-être même autoritaires au final.
L'épisode des Gilets jaunes a été quand même un moment particulier dans tout ça, non ?
Alors c'est vrai que les Gilets jaunes, ça a démarré sur une espèce de mobilisation par rapport à l'angoisse de voir l'augmentation avec une taxe pétrole, enfin une taxe carbone sur voilà, mais qui pesait surtout éventuellement sur les déplacements des plus modestes, contraints dans leurs déplacements, notamment pour ceux qui habitent en périurbain, etc. Voilà. Mais les Gilets jaunes, ça a été beaucoup plus complexe que ça, en fait. Le mouvement s'est étalé sur plusieurs mois, il a soulevé des questionnements beaucoup plus larges, et de quelque chose qui pouvait paraître une mobilisation anti-écologique au début, il a cheminé vers des questionnements plus intéressants pour dire que serait une transition écologique juste, avec à la fois des interpellations, des propositions tout à fait légitimes, en fait.
Mais justement, dans ce green backlash, on instrumentalise la question des inégalités sociales. On voit bien qu'on oppose la fin du mois, pour reprendre le slogan, à la fin du monde. Est-ce que cette fracture sociale-là, elle a été fabriquée, finalement ?
Alors, il faut prendre le temps pour répondre à ces questions avec finesse. C'est-à-dire qu'incontestablement, il y a un certain nombre de mesures adoptées par les pouvoirs publics, les gouvernements, qui ont pu être pensées sans trop de préoccupations, en fait, de la manière dont ça allait se passer pour les classes les plus populaires, pour certains publics particuliers, pour les populations rurales, pour ceux qui, par leur métier, sont liés à une voiture thermique et n'ont pas les moyens d'en changer, etc. Et le problème, c'est que ces moyens-là de transition, ce sont ceux mis en place par des gouvernements qui, depuis des années, sont dominés par une idéologie néolibérale, en fait. Réponse par le marché, éventuelle compensation, mais voilà, la question de l'articulation du social et de l'écologie n'est pas du tout leur préoccupation première. Or, ensuite, c'est bien un certain nombre de forces politiques qui favorisent le fait d'agréger des colères populaires ou des mécontentements, une construction pour incriminer les écologistes qui est en partie largement mensongère. Parce que les propositions peuvent être autres, en fait, pour essayer de faire cette transition, avec un soin beaucoup plus attentif à détricoter et transformer notre monde social pour que ces enjeux-là, sociaux et écologiques, soient beaucoup mieux articulés.
Alors, dans le même temps, on assiste donc à un dénigrement croissant des sciences du climat et de la biodiversité. Vous citez d'ailleurs dans votre livre, on en parlait, la longue filiation qui relie l'industrie du tabac aux climato-négationnistes d'aujourd'hui. Ce sont vraiment les mêmes méthodes, les mêmes réseaux qui sont à l'œuvre, parce que je l'expliquais justement dans l'édito, mais vous confirmez ça finalement ?
Alors, en partie, oui, ce sont des méthodes qu'on retrouve, mais pas seulement. Ce qu'on retrouve, c'est effectivement un certain nombre de lobbies qui peuvent travailler à construire des images négatives pour servir leur intérêt. Le climato-scepticisme qui a été construit progressivement au fur et à mesure du travail des climatologues pour étayer le consensus climatique sur le changement climatique remonte aux années 80, 90, est ancien, existe toujours, mais en France, on avait l'impression qu'il n'avait pas autant voix de cité qu'aux États-Unis, par exemple. Certes, il y a encore des bouquins climato-sceptiques qui font éhantément des bonnes ventes dans les librairies ou les grandes surfaces qui vendent des bouquins, mais on n'avait pas l'impression que des personnages politiques pouvaient porter ce discours. Ouais. Pour autant, ce qu'on constate, c'est en fait une sorte de déni de gravité, c'est-à-dire une partie de la classe politique maltraite la question écologique en ne prenant pas la dimension de ce qui se joue, la gravité extrême des enjeux. Il y a le climat, il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité, les autres limites planétaires. Et ça, il est malheureux de voir aujourd'hui qu'une partie de la classe politique est en train de lâcher les constats scientifiques ou de s'en battre le coquillard, c'est-à-dire de continuer as usual et même pire en fait, de régresser en construisant l'écologie comme bouc émissaire de tout un tas de peurs sociales.
Avec donc une espèce d'offensive culturelle et médiatique où les écologistes sont caricaturés comme des catastrophistes, voire des extrémistes, on en reparlera tout à l'heure. Et ce cadrage-là, il fonctionne encore ?
Ah ben ce cadrage-là, je dirais qu'il est plus à l'œuvre que jamais. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'appuie sur des stéréotypes anciens. Hein, le terme Khmer vert, idéologue, fanatique.
Ayatollah
de l'écologie. Mmh. Alors tout ça, ce sont des stéréotypes un peu faciles. Mais aujourd'hui, ça s'est aggravé quand ces dernières années, en fait, ce qu'on voit monter, c'est constaté par des études, par tous les observateurs qui s'intéressent à ça, de la répression en fait des mouvements écologistes, pourtant le plus souvent absolument pacifistes ou qui font des actions symboliques de désobéissance civile.
Sur des biens, pas sur des personnes.
Voilà. Éventuellement sur des biens et des répressions très fortes dans les régimes démocratiques, en fait, avec de plus en plus d'arrestations, de plus en plus d'envoi des forces de l'ordre avec des moyens surdimensionnés.
On va en parler tout à l'heure.
Des procès bâillons, etc. Mmh. Donc, et la construction d'une figure de l'écolo fanatique, là encore, comme une espèce de struisme pour circuler dans le débat social. Et quand le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait parlé d'éco-terroriste suite à la manifestation de Sainte-Soline, ça amène ce genre de vision.
On va écouter Donald Trump, c'était très récemment, en septembre dernier, devant l'ONU à New York, au sujet du climat et du réchauffement climatique.
C'est la plus grande arnaque au monde. Le changement climatique, quoi qu'il se passe, vous êtes impliqué dans le changement climatique. Plus de réchauffement climatique, plus de refroidissement climatique. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies, par de nombreux autres pays, souvent pour de mauvaises raisons. Toutes ces prédictions étaient fausses. Elles ont été faites par des idiots. Et ça a coûté des fortunes à leur pays. Si vous ne vous retirez pas de cette arnaque verte, votre pays sera ruiné.
Voilà, l'hortelière, ce discours édifiant de Donald Trump, donc il y a quelques jours à l'ONU. Les idiots, ce sont les scientifiques, qui sont clairement pointés du doigt par le président américain. Et dans cette bataille, dans ce backlash, vous dites à quel point les mots comptent autant que les faits d'ailleurs. Mmh. Et vous signez un chapitre sur les 50 nuances de l'écologie punitive. Pourquoi c'est important d'analyser le lexique du backlash ?
Parce que ce lexique du backlash, il contribue à nous empêcher de penser l'époque qu'on vit et ce à quoi il faut faire face. Il nous enfume, il crée du brouillage, il crée des faux clivages, mais des clivages de plus en plus durs. Et en fait, les opinions publiques, les populations qui sont embarquées dans ces mécanismes de fabrique à la fois du doute, du mensonge, des stéréotypes, tout ce qui nuit en fait à la qualité du débat public, sont rendus incapables de réaliser où se trouve leur intérêt profond. Parce que, en fait, c'est bête à dire, mais notre intérêt profond, c'est d'abord que cette planète reste habitable. Les scientifiques en sont là maintenant, de ce discours d'alerte qui est porté depuis très longtemps. C'est maintenant de dire que là, on franchit des seuils d'irréversibilité qui sont absolument cruciaux. Donc, comment qualifier ce qu'on vient d'entendre ? C'est-à-dire que l'homme politique le plus puissant de la planète soit une espèce de, de, de fou grotesque. Je dis fou parce qu'il n'est pas fou du tout aux sciences psychiatriques, sans doute, en tout cas je ne me prononce pas là-dessus, mais il tient des propos qui sont... voilà, on ne sait pas s'il faut pleurer ou être absolument désespéré, mais en tout cas ça produit des effets dans le réel, c'est-à-dire que là, derrière cette parole, ça ouvre la voie à tout un tas de gens qui peuvent s'embarquer dans ces discours-là qui n'ont ni queue ni tête, ça ouvre la voie à des effets dans le réel pour sabrer ce qu'il est en train de faire aux États-Unis, la recherche sur le climat, la recherche sur l'environnement, les administrations qui s'en occupent, etc., ou pour réduire à néant des années de négociations multilatérales. Par exemple, là, il vient de dire que alors que l'ONU avait négocié un potentiel traité sur le commerce naval pour essayer de, enfin maritime, pour essayer de le décarboner, un pas absolument nécessaire, qu'il allait taxer tout pays qui s'engage là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, on a une première puissance qui utilise sa force désormais comme un étau à voyous, comme un racketteur mafieux qui va punir ceux qui essayent d'être encore dans une rationalité et du multilatéralisme. C'est absolument dramatique.
L'Hortelière, vous êtes notre invité. On parle de Green Backlash avec vous et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr sur la page de la Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On a créé un mouvement non-violent qui s'appelle Consommation Rébellion, parce qu'avec cette dictature verte qu'on tente de nous imposer, eh ben, il y aura peut-être un peu moins de pertes humaines, mais l'économie, elle ne cédera pas. L'écologie, c'est un sujet qui aujourd'hui est complètement instrumentalisé par la science. On se retrouve avec des fanatiques qui pensent que 1 plus 1, ça fait 2, alors qu'on sait tous qu'une indexation à l'Euribor peut présenter à court terme des taux d'intérêt négatifs pour l'emprunteur. Ben, je comprends pas du tout cette logique bornée, quoi.
Bon, bienvenue.
Monsieur, le marché de l'automobile s'effondre, c'est suicidaire d'être en vélo.
Allez, descendez du vélo, monsieur. Tenez, prenez ma voiture. Voilà.
Guillaume, un vélo.
Un vélo, un vélo.
Rejoignez Consommation Rébellion. Et puis, pour les adhésions, c'est pas trop de soucis. Là, il y a le Black Friday, les courses de Noël qui arrivent. Consommation.
Voilà, on peut aussi en rire. Heureusement, ça fait du bien. Brout, avec Bertrand Huskla, l'Hortelière, vous qui êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine et qui publiez cet ouvrage Green Backlash. Qui veut la peau de l'écologie? C'est aux éditions du Seuil. Vous parlez dans ce livre d'un capitalisme survivaliste porté par les grandes figures du numérique et de la technologie. C'est une expression forte. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement?
Alors en fait, dans ce livre, où on essaye donc d'analyser à la fois les mots du Green Backlash, les acteurs et les secteurs où ça se déploie, les acteurs qui portent ces discours et ces attitudes-là, on essaye aussi de comprendre les mécanismes de fond et de les remettre en perspective historique, de les comprendre aussi dans leur genèse et leur approfondissement dans le temps. Et donc, il nous semble que au-delà de notre situation particulière, à nous, ici en France, il faut élargir aussi le cadre de vision et attacher ça à des trajectoires et des dynamiques de fond. Donc, le contexte global, c'est celui de l'ultranationalisme aujourd'hui, d'un retour d'impérialisme décomplexé pour mettre la main sur les ressources en fait, voilà, du capitalisme à venir, y compris de la transition. Transition dite verte, le rejet du multilatéralisme, j'en ai parlé, des dérives idéologiques qui sont celles de glissements très réactionnaires vers la droite et la montée des extrêmes droites, et d'un déplacement matériel, financier, idéologique de l'économie mondiale avec, dans le jeu et les équilibres du capitalisme mondial, la montée, la dynamique économique et politique de régimes autoritaires et illibéraux en Asie, dans les pays du Golfe, maintenant évidemment aux États-Unis. Mais plus profondément encore, en fait, il y a un chapitre où c'est Geneviève Azam qui utilise ce terme, elle analyse les dynamiques internes de la pensée économique qui guide aussi ces évolutions. Et c'est elle qui parle d'un capitalisme survivaliste. En gros, ce qu'elle explique, c'est que déjà, la contre-révolution néolibérale des années 80-90, l'élection de Reagan, Thatcher, ce vaste mouvement-là qui avait dérégulé l'économie, financiarisé l'économie mondiale, etc., poussé à la mondialisation capitaliste, faisait peu de cas, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'écologie, des enjeux environnementaux, qui était une nature mise au service d'un projet de marchandisation, de maximisation du capital et qui faisait aucun cas des alertes de type le rapport Meadows des années 70, etc. Aujourd'hui, les choses ont encore évolué parce que ça s'est hybridé avec des pensées venues du mouvement libertarien américain, des mouvements écomodernistes qui prétendent répondre à l'enjeu environnemental en fait en dénigrant les apports de l'écologie politique pour faire plutôt une saisie par le haut, très technosolutionniste, et comme une logique d'accélération de la modernisation, de l'industrialisme, pour répondre aux dégâts causés par cette industrialisation et cette marchandisation de la nature et du monde.
C'est-à-dire qu'on nie pas forcément la catastrophe, mais on l'anticipe, on s'adapte avec des solutions technologiques.
Pour les plus cyniques d'entre eux, c'est-à-dire certains grands capitaines d'industrie, maintenant on voit que les patrons des GAFAM, une grande partie d'entre eux se sont alignés sur l'idéologie trumpienne et sont allés faire allégeance à cette vision du monde, ça devient une sorte de quête de puissance complètement débridée et décomplexée, au service et au bénéfice des plus forts.
Et des plus riches, donc.
Et des plus riches, voilà, hein, qui seront les vainqueurs de ce radeau de plus en plus à la dérive que deviendra la planète et ses habitants. Donc, il y a presque, voilà, à la fois un cynisme et l'idée que, de toute façon, il restera quand même encore de l'argent à gagner sur la bête, au fur et à mesure que ça va s'aggraver. Et donc, avec une vision, d'ailleurs, de plus en plus presque biologiste et raciale aussi, de se dire que bah oui, certains seront des populations maltraitées par tout ça, mais peu importe.
Une sorte d'eugénisme, finalement.
Finalement, on va vers ça, et dans l'esprit de certains, ce sont déjà des discours qui commencent à être tenus.
Vous citez Jeff Bezos, Elon Musk, les GAFAM, donc, comme symbole de cette nouvelle technologie, idéologie technocapitaliste. Et est-ce que, d'une certaine façon, le numérique est aussi devenu un nouvel acteur de ce green backlash,
Oui, enfin, le numérique, tous les gens sérieux qui s'y intéressent, voit bien que ce sont des technologies qui s'imposent, qui se sont imposées déjà largement pour le numérique, mais là, avec l'arrivée en plus de l'IA qui est en train de démultiplier ça avec une vitesse extrême, on voit bien que ça pose des questions d'empreinte écologique considérables. C'est-à-dire que c'est des besoins en énergie, en électricité absolument considérables. Et de toute façon, décarboner l'électricité, c'est déjà un enjeu pour des secteurs d'activité essentiels, où pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Donc, rajouter à ça ce déploiement au forceps de l'IA qui pose en plus d'autres problèmes dans ce que ça va faire au social, au métier, Donc, c'est sûr que le numérique et l'IA, de ce point de vue-là, sont au cœur de ces enjeux-là.
Il faut aussi citer ces politiques de décarbonation, entre guillemets, qui peuvent renforcer l'extractivisme. C'est un paradoxe assez déroutant parce que finalement, au nom de la transition énergétique, on peut aussi alimenter le moteur de la destruction écologique. Quels exemples vous pensez, par exemple ?
Il y a plusieurs chapitres dans le livre qui reviennent. Hein, d'ailleurs, ceux qui ouvrent le regard vers des pays du Sud, des Suds notamment, comme le chapitre sur le cas de l'Amérique latine, qui montre en fait un continuum avec les logiques coloniales. D'extractivisme au sens de trouver dans certains territoires périphériques. Des ressources minières, mais aussi des ressources agricoles, par exemple, des matériaux bruts pour alimenter le développement des autres. Donc, c'était déjà le cas à l'époque coloniale. C'était le cas dans le XXe siècle, même avec des schémas de rapports inégaux post-coloniaux. Mais aujourd'hui, avec la transition verte, et le déploiement d'un certain nombre de technologies, que ce soit le numérique, mais que ce soit aussi certaines énergies renouvelables qui ont beaucoup besoin de métaux, de terres rares, etc. Ben en fait, on a cette reprimarisation de ces économies, c'est-à-dire qu'elles redeviennent des territoires d'où on extrait des matériaux et une valeur avec des impacts environnementaux considérables
au nom de la transition.
Donc là, ça pose des problèmes énormes qu'on avait déjà en partie abordés dans le greenwashing, c'est-à-dire que une forme de transition, il faut la faire sans se leurrer par des promesses. C'est un chemin difficile et exigeant qui nous impose de poser aussi la question des usages, de la sobriété, voire de la décroissance, des mots qui ne devraient pas être tabous, mais au cœur de nos questionnements. Et comment faire que, pour aller dans ces chemins-là, la charge soit justement répartie, et en particulier pour ceux qui ont le moins de possibilités de changer. Voilà, c'est ça. Donc, comment reconstituer une société juste à partir de la contrainte écologique et ne pas inverser les propositions. Parce que sinon, comme il est détaillé dans le chapitre Le contre-coup de l'extractivisme vert, on a des pays où l'exploitation à l'échelle planétaire du cuivre, du nickel, du lithium, de tous ces métaux très importants, fait voler en éclats à la fois les environnements, mais aussi les droits humains dans ces territoires.
Et donc, on retombe dans les mêmes logiques à la fois coloniales et productivistes. Tout
Exactement.
Ça, encore une fois, fois au nom de la transition écologique.
Ouais, exactement. Donc, et si vous le remarquez, les choses sont en train de s'accélérer. Cet été, par exemple, au Brésil, il passait une loi que les Brésiliens, soucieux de l'environnement, appelaient la loi de dévastation. En Turquie, une loi pareille que les observateurs ont appelée la loi de superpillage, parce qu'en fait, toutes les deux sont faites pour déréguler de manière à aligner l'extractivisme dans ces pays.
Alors, te lire ce constat est brutal. Hein. C'est donc la promesse d'une économie verte qui se transforme aussi en un autoritarisme de marché et où la démocratie devient un obstacle. Est-ce que, selon vous, le green backlash est aussi un symptôme de la crise démocratique mondiale aujourd'hui ? Ça raconte à peu près une histoire similaire ?
Nous le pensons. Nous pensons que écologie et démocratie ont absolument partie liée. Hein. Voilà. D'une part, très simplement, hein, parce que dans un monde où on laisserait filer la catastrophe écologique, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que, voilà, dans un monde où le réchauffement continuerait à aller de l'avant, où on n'arriverait pas à faire cette modification drastique, où la biodiversité s'effondrerait, enfin, voilà, il y a des indicateurs qu'on est dans ces
seuils-là. Et les choses vont très vite et s'accélèrent.
Et les choses vont très vite et s'accélèrent, exactement. Comment imaginer une société démocratique ? Ça susciterait tellement de tensions sociales. Donc voilà, elles ont partie liée vraiment très fondamentalement.
Mais expliquez-nous ça bien, qu'on ait des exemples concrets, parce que c'est important justement. Pourquoi justement ça fragilise aussi la démocratie ?
Mais parce que voilà, nos sociétés ont été construites sur une forme d'abondance énergétique qui a permis le déploiement de tout ce qui nous est familier, que ce soit les infrastructures pour se déplacer, l'organisation de notre mode de vie, notre travail, l'urbanisation, la manière dont on produit notre nourriture, avec l'agriculture intensive et ses engrais, etc. Et donc, changer ça, c'est un chemin complexe qui ne peut pas se faire sans une remise à plat très importante, en fait. Ce qu'on voit bien, là, c'est que les mesurettes, ça ne fonctionne pas et on n'est pas en train de prendre les bons chemins. Et par ailleurs, si y a un bouquin qui est sorti là récemment d'un collègue sur 2049, ce que le climat fera à l'Europe, où il parle des points de bascule du climat, voilà, Nathalie Wallenhorst, et lui donne une image assez saisissante et scientifique de ce qui peut se profiler si on laisse filer les choses.
L'Hortelière, on vous retrouve dans un instant. Vous pourrez bien sûr réagir, commenter les messages et les courriels des auditrices et des auditeurs, et puis également appelez-nous avec vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré.
L'écologisme est aujourd'hui un vecteur de l'idéologie anti-progrès. On est contre le nucléaire, on est contre les OGM, on est contre les gaz de schiste, on est contre en fait tout le progrès tel qu'il peut se produire. On le voit même maintenant, on est contre les aéroports. L'homme menace la planète, que par conséquent, il faut refuser le progrès et il faut stabiliser les choses telles qu'elles sont et même revenir en arrière.
L'ancien ministre de la Recherche, Claude Allègre, en 2012, illustre climato-sceptique L'Hortelière, vous qui publiez Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie aux éditions du Seuil. Votre réaction d'ailleurs sur cet argument qu'on entend souvent d'ailleurs, ils sont contre le progrès, contre l'avancée du monde, contre les innovations.
On a un chapitre là-dessus, signé de François Jarige d'ailleurs, hein, ça fait partie des grands, des grands clichés qui circulent encore, mais c'est assez marrant de le voir reprendre là dans une version presque chimiquement pure, Claude Allègre qui ne s'est pas illustré pour la qualité de ses propos sur la question écologique et le réchauffement climatique. Ça, c'est pathétique et je pense que certains propos aujourd'hui de personnages politiques, de personnages médiatiques seront a posteriori jugés de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de dureté parce que c'est en partie des mensonges et en partie de la bêtise.
Est-ce qu'il vous semble que ce backlash a atteint une forme de maturité aujourd'hui ou est-ce que nous sommes encore dans une phase de montée en puissance très prometteuse, je dirais.
Ah là là, c'est dur de répondre à ça, mais nous, on a quand même l'impression là qu'on est dans une dynamique qui s'amorce, mais qui, hélas, n'a pas fini de montrer tout ce qu'elle a en réserve. Quoi.
D'autant C'est-à-dire qu'on a des échéances politiques importantes entre les municipales et la présidentielle.
Exactement. Et avec l'élection de Trump aux États-Unis, on voit quand même ce que peut produire le fait de se retrouver avec un gouvernement qui fait absolument n'importe quoi en la matière. C'est dramatique. Donc, nous, à l'atelier d'écologie politique, on considère qu'il faut, il faut politiser ces enjeux au sens noble du terme. Mmh. Ça veut dire, bien sûr, voter pour des partis qui traitent de la question écologique et qui en traitent à peu près correctement, et pas, hélas, pour des partis qui, aujourd'hui, sont absents, voire dénigrent le sujet. Mais la politisation, c'est pas non plus que l'élection, ça passe par plein d'autres formes d'organisation, d'engagement, du fait d'essayer de se mobiliser là où on est, dans des collectifs professionnels, des collectivités locales, dans les syndicats, pour que ce soit porté, ou en s'engageant dans des expériences concrètes de territoire autour de ces enjeux.
Alors ce backlash écologique, évidemment, il se joue sur un autre terrain, celui de l'information, avec un traitement médiatique qui participe à entretenir aussi ce retour de flamme contre l'écologie.
Oui, ça sans aucun doute, il suffit d'écouter certains médias, les médias de la galaxie Bolloré, certaines émissions, de voir aussi comment ça prend sur les réseaux sociaux, parce qu'autour de ces clichés, de ces questions, c'est facile de produire aussi du buzz, des effets de clash, etc. Et donc, c'est sûr que là, la dégradation du paysage médiatique, le fait qu'une partie des médias aujourd'hui soit asservie à des millionnaires qui les utilisent comme des armes idéologiques.
Donc il y a des liens très forts justement entre les puissances économiques et les médias.
Oui, c'est sûr. Enfin, je pense que toute personne qui regarde objectivement les choses peut en être rapidement convaincue. Et donc, ça fait partie, ce système médiatique de plus en plus polarisé, se fait une chambre d'écho de la désinformation avec des propos à l'emporte-pièce, des dédaigneux, trompeurs sur le sujet, etc.
Et en faisant croire que la science nécessite un débat équilibré, c'est-à-dire que chacun pourrait avoir son opinion et on pourrait mettre ça justement sur... devant les micros défendre ces sujets avec l'avis, son avis contraire.
Vous en avez parlé dès l'édito, ça a été un vieux dispositif pour noyer le poisson, en disant qu'il y a deux opinions possibles, le blanc, le noir, etc. Alors qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Et effectivement, les scientifiques ont du mal à se faire entendre avec le prisme médiatique, d'autant plus quand ces médias sont orientés dans cette culture du clash et d'une idéologie parfois très réactionnaire. Et aujourd'hui, on n'en a pas parlé trop, mais dans le livre, il y a des chapitres écrits par Christophe Cassou, Valérie de Masson-Delmotte, qui témoignent, tous les deux climatologues, tous les deux membres éminents du GIEC, et qui témoignent vraiment de manière... qui nous donnent les coulisses, de ce qu'est un certain backlash contre les scientifiques, contre les climatologues.
Et justement, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est-à-dire que les journalistes, les enseignants, les chercheurs, ils ont un rôle majeur à jouer pour essayer de contrer cette machine puissante du backlash aujourd'hui.
Et oui, bien sûr, je pense que ça doit faire partie des objectifs qu'on se donne et sur lesquels on essaye de faire front commun pour maintenir tout simplement un débat public de qualité et un espace de délibération démocratique. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les deux ont partie liée.
Qu'est-ce que ce backlash dit de notre époque, selon vous, l'hortelière, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices? Qu'est-ce que ça raconte, en fait?
Ce backlash raconte le fait qu'on est dans un moment de l'histoire où on est un peu coincé, dans un goulot d'étranglement entre que la puissance de notre développement, de l'empreinte matérielle qu'on a fait au monde, du fait qu'il faudrait vraiment changer, remettre beaucoup de choses en place pour que ça soit fait de manière juste et approuvé par la population. Il faut aussi revoir la question de la justice sociale, de choses comme ça. Donc c'est des changements extrêmement lourds. Et face à ça, il y a des puissances d'intérêt très bien organisées qui n'ont pas du tout envie que ça bouge.
Allez, on passe aux questions. Un premier message de Lionel pour vous, l'hortelière, qui vous demande des propositions pour rendre le message plus audible pour les nombreuses personnes qui n'entendent que la partie négative de l'écologie. Comme Trump, il faut aller à l'essentiel pour toucher les gens, mais positivement. Alors comment on renverse justement et comment on peut presque finalement s'inspirer aussi de ces discours-là pour en faire des armes plus efficaces pour défendre l'écologie ?
Alors là, le défi est rude de vouloir s'exprimer comme Trump. Je ne crois pas que j'irai par là. Mais là, notre conversation a été consacrée au fait de comprendre les mécanismes du backlash, parce qu'il faut être lucide pour pouvoir essayer de s'y opposer et de les contrer. Mais évidemment, les propositions d'aller vers un monde qui soit écologiquement soutenable, on va dire ça comme ça, peut être adossé à des propositions politiques éminemment désirables, même par certains côtés plus désirables. Est-ce par que exemple, notre société actuelle est si désirable que ça? Ben, je ne sais pas, par le fait qu'on ait une répartition de, voilà, des ressources, des moyens, des opportunités plus justes dans cette société. Moi, personnellement, je trouve qu'absolument rien ne justifie le fait que certains soient sur des niveaux de revenus et de fortune indécents à l'heure actuelle. Il serait tellement possible de ponctionner là un peu de richesse pour permettre un certain nombre d'évolutions qui sont nécessaires à tous.
Alors je complète la remarque de Lionel avec celle de Philippe qui dit « Trump est un crétin et les climato-négationnistes des criminels. Cependant, dit-il, j'aimerais que les scientifiques prennent conscience que leur communication est inapte. Parler de déclenchement de 2 degrés ne faisant peur à personne, il aurait fallu décrire les vrais impacts, plus de neige, sécheresse, inondations, tornades, insectes, exotiques. Une remise en cause est nécessaire. » On a l'exemple du tabac pour voir que la vérité scientifique ne suffit pas. Ils font les deux, les scientifiques, aujourd'hui. Non seulement ils disent que ça va augmenter de plusieurs degrés, mais en plus, ils nous parlent sans arrêt des impacts, non ?
Oui, oui, je crois que les scientifiques font les deux. Ben, pendant longtemps, il y avait cette idée qu'il fallait alerter sur les constats. Et effectivement, il fallait bien le faire. Il faut voir que les scientifiques étaient confrontés déjà au climato-scepticisme, à tout ça. Donc, il fallait rien lâcher sur la rigueur scientifique, etc. Et ça fait un moment qu'une partie des scientifiques au moins ont dépassé ça pour aussi essayer de comprendre d'autres mécanismes, les verrous, qu'est-ce qui nous maintient dans ces trajectoires insupportables, etc. Et puis, pour essayer de rendre ce message sur, en effet, les degrés, l'évolution du climat de manière plus concrète. Donc, ce qui est dit là, je pense qu'en partie, c'est fait par les scientifiques. Le problème, c'est l'accès des scientifiques à la parole publique. Par quel canot, quand on a parlé des médias ou des réseaux sociaux, comme on l'a montré tout à l'heure, avec plein de filtres pour que ce ne soit pas entendu ou communiqué comme il le faudrait.
Marie demande, vous utilisez tout le temps le mot backlash, mais ça signifie quoi exactement en français? C'est vrai qu'on aurait même pu commencer par là, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, bon, c'est un peu facile parce que pour un ouvrage comme ça, il fallait un mot qui résume un peu des idées qu'on pourrait prendre en plusieurs phrases périphériques pour indiquer. Donc, le backlash, ça veut dire le retour de bâton, mais même ça, on peut l'interpréter de manière diverse. Certaines peuvent y voir une sorte de rééquilibrage, comme si on avait trop parler d'écologie, trop fait chier les gens avec l'écologie, et ce serait une sorte de rééquilibrage. Non, nous, on y voit plutôt une sorte de retour de bâton très offensif, en fait, pour casser cette dynamique et pour discréditer ce qu'il apporte.
La technophobie rend-elle service, demande Gilles, à l'écologie ?
Mais je ne crois pas que les écologistes, ou en tout cas ceux qui se préoccupent, enfin les écologistes en plus, je ne veux pas parler à ce titre-là ou mettre cette étiquette-là, ceux qui, disons, s'intéressent aux enjeux écologiques cruciaux d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'ils soient par nature technophobes, ce n'est pas ça la question. Par contre, considérer que notre impact matériel sur les équilibres planétaires dépend des infrastructures techniques et technologiques qu'on a déployées et éminemment articulé à ça, ça a toujours été un questionnement de l'écologie, parce qu'il est absolument nécessaire, en fait. Voilà, donc confondre ça avec de la technophobie, c'est trop réducteur.
Merci beaucoup, Lortelière. Je renvoie donc sur cet ouvrage collectif, Green Backlash, qui veut la peau de l'écologie. C'est publié aux éditions du Seuil, dans la collection Écocène. Merci d'être venu nous en parler.